Le journal René Capita.
Le chef de poste de l'ANR Bunagana à la frontière entre le Congo, l'Ouganda et le Rwanda a été agressé la nuit. Lui et son secrétaire ont été blessés à l'arme blanche par des hommes en uniforme non encore identifiés. Opération de ratissage ce matin dans la commune de Barumbu. La police est allée mettre hors d'état de nuire un groupe de jeunes qui terrorisaient la population la nuit dernière. Désormais, l'autorité de régulation des postes téléphone et télécommunications ARTT sera placée sous tutelle du ministère des PTT, recommandations formulées à l'issue des états généraux des postes télécommunications et téléphones. Mesdames et messieurs, bonjour. Attaque cette nuit du chef de poste de l'ANR de Bunagana, localité située à la frontière entre l'Ouganda, le Rwanda et la RDC dans les territoires de Rutshuru. La victime a été blessée à l'arme blanche. Les assaillants, décrits comme des hommes en uniforme, ne sont pas encore identifiés. Explication de Sylvestre Kilolo à partir de Goma.
C'était vers 22h locales que les deux victimes, le chef de poste de l'ANR accompagné de son secrétaire, ont surpris les agresseurs dans leur parcelle. Des sources administratives sur place affirment que les assaillants, des hommes en uniforme non autrement identifiés, ont tabassé et blessé grièvement ses responsables de renseignement à la tête par arme blanche. Au cours de cette même agression, les deux hommes ont été dépouillés de leur téléphone, de quelques sommes d'argent, ainsi que de documents administratifs. Selon les mêmes sources, les agresseurs ont disparu immédiatement après leur forfait et restent introuvables. Les victimes, elles, viennent d'être transférées à Goma pour des soins appropriés. Notez que Bunagana est un poste douanier très important pour les commerces Ouganda-Est de la RDC. Le secteur est sous contrôle de la brigade mixée Bravo et partage la frontière entre l'Ouganda, le Rwanda et la RDC. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Sud Kivu, deux bandits à main armée tués à coups de pierre et de bâtons la nuit de vendredi à samedi dans la localité de Tshisakdou, territoire des Kabarés. Selon Didier Kagizi Matabaro, chef de poste d'encadrement administratif de Mumosho, ces voleurs ont été appréhendés pendant qu'ils étaient dans la maison d'un commerçant venu de Kalemi. Joint au téléphone par Charlotte Ngungi Selemani, Didier Kagizi Matabaro, chef de poste d'encadrement, condamne cet acte. Il dénonce aussi l'impunité.
Je sais que la population ne peut pas se rendre en justice puisque c'est une infraction, mais la population elle-même est aussi fatiguée. Puisque chaque fois qu'on prend un voleur, on remet ça à la police ou bien je n'importe quelle autorité, le même voleur reviendra encore dans le quartier venir voler. Si la population a fait cela, c'est puisque la population est tellement fâchée. À l'heure où je vous parle, si même insécurisé par le même voleur est armé, je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas acheter encore le courrier, puisque je ne sais pas comment je peux chaque fois attraper des voleurs et puis le même voleur revient dans le quartier.
Signalons que l'arme utilisée par ces bandits a été restituée à la police plusieurs heures après négociation entre la police et les chefs d'encadrement du groupement des Moudoussa. Kinshasa, deux jeunes ont été blessés par balle à la jambe ce matin dans le quartier Sitas, commune de Barumbu. C'était au cours d'une intervention de la police dans ces quartiers pour arrêter une bande de jeunes dits sportifs. Hier, ces jeunes ont semé la panique dans ce quartier, cassant des bouteilles dans des débits de boissons et extorquant des biens des passants. Selon des témoignages, une dizaine d'autres jeunes ont été arrêtés et acheminés au camp Lufungula. Daniel Tambinzoni revient sur les événements.
Ces jeunes gens communément appelés à Kinshasa Bomba ont commencé à terrasser la population hier samedi vers 23h sur l'avenue Kabinda dans la commune de Kinshasa avant de poursuivre leurs actions sur l'avenue Kassai dans la commune de Barumbu. Ils cassaient des bouteilles dans des débits de boissons et extorquaient argent, bijoux et téléphones portables aux passants. Informés, les éléments de la police communale se sont lancés à leur poursuite. C'est vers 5h ce matin qu'ils ont réussi à blesser par balle deux d'entre eux. S'en est suivi une opération de ratissage au cours de laquelle une dizaine d'autres ont été appréhendés. Parmi les arrêtés figurent quelques innocents, à l'exemple d'un élément d'une entreprise de gardiennage qui venait de rentrer de service. Arrivés au sous-commissariat communal, les innocents ont été relâchés et les suspects conduits au camp Lufungula pour être entendus. Toutefois, quelques débordements sont à signaler, notamment les parents d'une victime innocente sont allés réclamer au commissariat communal qu'il leur soit restitué $150 américains gravés à leur fils au moment de son arrestation. Depuis le quartier Sitas, commune de Barumbu, Daniel Tambinzoni, Radio Okapi.
Nous nous rendons dans la province du Katanga où le commissaire du district de Lualaba dénonce la tracasserie dont est victime la population de la cité de Kasaji, chef-lieu du district. Patrick Kajik pointe du doigt l'inspecteur de la police district du Lualaba. Il refuse, d'après lui, de faire respecter par ses éléments les décisions des autorités provinciales, notamment celles interdisant la perception de la taxe vélo. Le commissaire du district sollicite l'intervention des autorités provinciales pour sécuriser la population de sa juridiction. Il a été joint au téléphone par Radio Capi.
Notre juridiction, dont les infrastructures sont délabrées, l'unique moyen de déplacement sont des vélos ou des motos. J'avais été saisi et moi-même, quand la population s'était plainte pour la traversée policière, j'avais écrit une lettre au commandant district de la police qui est mis à ma disposition pour rappeler tous ces éléments à l'ordre. Mais malheureusement, les commandants restent toujours insensibles, insubordonnés. Et même le vice-président de l'Assemblée provinciale a fait aussi les rapports dans ce sens-là auprès des gestionnaires de la province. Il y a certaines personnes croient qu'on est encore en deuxième république où on peut se comporter comme ils le veulent.
Contacté à ce sujet, l'inspecteur de la police du district de Lualaba a déclaré qu'il relève du travail de la police d'exiger des documents de bord et de sanctionner les contrevenants. À l'Équateur, à Guadeloupe, les violons ne s'accordent pas entre la police d'intervention rapide et le parquet. Cette nuit, cette unité de la police accuse le parquet d'avoir libéré samedi près de 8 tonnes de mitrailles qui avaient été saisies. Ces mitrailles proviennent de la destruction des câbles de la SNEL, des robinets de la Régie des Eaux et des objets d'art arrachés de la tombe du fait Marie-Antoinette Mobutu, épouse de l'ancien président de la République. Les détails avec Askel Zigbia.
Selon le commandant second de la police d'intervention rapide de Guadeloupe, le procureur de la République près le parquet de grande instance de la ville a libéré dans l'ombre le mitraille qu'avait saisi son unité. Pour le lieutenant Alexis Alegbiani, l'acheteur de ce mitraille ainsi sierra-léonais est déjà en République centrafricaine avec sa marchandise.
Tout ce qui était arrêté, et quelques jours après, il a libéré, et on lui a payé $500. Dès que je vous parle, tous ces mitrailles déjà franchis pour leur fille. C'est ce que j'ai comme la précision.
Contacté, le procureur Emmanuel Bikakala refuse de confirmer cette accusation, mais il dit avoir fait son travail.
La police doit faire son travail, le parquet aussi doit faire son travail. Vous comprenez? Si la police a trouvé que j'ai mal travaillé, il y a le parquet général en Bandaka. Il m'accuse au parquet général en Bandaka. Je vais me justifier moi-même.
Le juge président du tribunal de grande instance déclare que cette affaire n'a jamais été transférée au tribunal. Caliste Bekanga Ilinga.
J'estime qu'il mérite effectivement d'être transféré au tribunal parce que certains objets d'art de la tombe de Maman Cécé feraient partie de ce lourd, de mitraille. On aurait découpé les câbles de la SNEL. Mais là, effectivement, il y a l'infraction de destruction des tombeaux qui est une prévention prévue par la loi. Il y a un problème aussi de destruction méchante.
Rappelons qu'un bourgmestre de Guadeloupe avait été suspendu en juillet sur ordre du gouverneur de province pour avoir délivré un document autorisant l'achat de ce mitraille alors que le gouverneur avait interdit ce marché. Dembandaka Askenzi Betayoro, Radio Okapi.
Enseignement dans les Bandundu, les enseignants des écoles conventionnées kimbanguistes de Gungu se plaignent que leur salaire n'arrive pas directement à leur territoire. Dans un mémorandum adressé aux responsables des services de contrôle de la paie des enseignants CQP, ces enseignants demandent que leur salaire soit directement convoyé à Gungu et non à Idiofa. Les explications de Fabien Kambizi.
Ces mémorandums portent sur trois revendications. Le retard que font leurs salaires suivant un trajet de plus de 320 km partant de Kikwit à Gungu via Idiofa, le retrait des frais de transport de ces fonds ainsi que la dîme pour l'église à la source, soit 1500 francs congolais, et le risque que courent les agents affectés pour convoyer ces fonds à vélo ou à pied jusqu'à Gungu. Ces enseignants demandent au service de contrôle de la paie des enseignants à Kikwit d'orienter directement leurs salaires vers Gungu après des 165 km au sud de Kikwit. Contacté à ce sujet, le chef de cellule du CECOP Bandundu de l'inspecteur Ndona approuve ce mémorandum et dit avoir donné l'ordre au comptable d'État du territoire d'Idiofa de libérer à partir de Kikwit les salaires de ces 15 écoles kimbanguistes de Gungu. Pour lui, ce n'est pas une affaire des gestionnaires ni moins des églises, mais une affaire des comptables d'État. Et chaque territoire a son comptable d'État. Kikwit, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Désormais, l'autorité des régulations des postes, téléphones et télécommunications ARPTC devrait être placée sous tutelle du ministère des PTT tout en conservant son autonomie financière. C'est une des recommandations des travaux des États généraux des télécommunications clôturés ce samedi au centre thérésien homme de Kitambo. Ces travaux ont réuni plusieurs utilisateurs des ondes comme l'OCPT, la RVA, la RVM, la Renatelsat, les Metelsat, les exploitants des téléphonies et Internet ainsi que des organismes internationaux. Les conclusions des travaux avec Jeff Fangoy.
Parmi d'autres recommandations, on note également la restructuration de l'OCPT, la réduction des coûts et des prix des services rendus au public par les exploitants des PTT. Les États généraux des télécommunications recommandent aussi aux opérateurs et exploitants du secteur de contribuer à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. Le ministre des PTT appelle ainsi tous les opérateurs à se mettre en ordre vis-à-vis de l'État. Cyprien Kiamoussoki.
Je réitère une fois de plus mon appel envers les opérateurs qui ont soit développé les services à valeur ajoutée non autorisés par leur cahier des charges, soit modifier la structure de leur capital, de se mettre rapidement en ordre vis-à-vis de l'État.
Notons que ces travaux se sont clôturés en l'absence de grands opérateurs du GSM tels que Celtel, Vodacom et Oasis Tigo. Ces derniers avaient quitté les travaux suite à une divergence de vue avec le ministère sur leur contribution dans les caisses de l'État. Bob Tumba, président de Oasis Tigo, continue à croire qu'il contribue à suffisance au trésor public.
Il y a 10 ans, nous n'existions pas dans la comptabilité nationale, mais aujourd'hui nous amenons les 30% des recettes de l'État. Et quand quelqu'un constitue une pompe financière importante, ce qu'on appelle une manne publique, il y aura dialogue, nous sommes majeurs, adultes et vaccinés, on finira par se mettre autour d'une table.
Apparemment tout le monde reste ouvert au dialogue.
Bukavu, les bureaux de l'Assemblée provinciale invitent les organismes de développement œuvrant dans la province à cesser de travailler en ordre dispersé. C'était le vendredi dernier à Bukavu, au cours d'une rencontre entre l'Assemblée provinciale et les représentants des ONG de développement. Les ONG concernées jugent la remarque fondée, mais elles demandent au pouvoir de jouer son rôle d'orienter l'action des ONG sur le terrain. Jean Kassami pour les détails.
L'appel de l'organe délibérant au Sud Kivu a été lancé vendredi au représentants des ONG locales internationales à pied d'œuvre au site Kivu. Le rapporteur de l'Assemblée a invité chaque ONG à collaborer avec le pouvoir public par souci de transparence. L'honorable Gilbert Ngongo a cité par exemple le cas du territoire de Fizi où pullulent des dizaines d'ONG alors que d'autres parties de la province se sont abandonnées à leur triste sort. Comme conséquence, ces organisations se piétinent sur le terrain en faisant presque la même chose. Réagissant à ces remarques, les représentants des ONG ont reconnu la pertinence de ces critiques. Néanmoins, ils ont demandé au pouvoir de monter un mécanisme capable d'orienter l'action de chaque ONG sur le terrain. Pascal Tiraluiroy, animateur provincial de l'Institut Panos Paris, était de la partie.
Les ONG ont été conscientes de ce passé des choses. Elles ont montré que cela est dû au fait qu'il n'y a pas un mécanisme de coordination suivi par le pouvoir. C'est le pouvoir qui doit identifier les besoins et pouvoir orienter l'action des ONG sur le terrain.
Déjà, la semaine prochaine, se tiendra une réunion entre les ONG et les services techniques de l'État dans ce qu'ils appellent un cadre de concertation. Le responsable du bureau de coordination des affaires humanitaires au Tchad-Sud-Kivu précise qu'il s'agira en premier lieu de discuter les problèmes humanitaires au Sud-Kivu. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Kasaï Oriental, l'archevêque catholique de Kananga invite les personnes et organismes de bonne volonté à initier des actions caritatives pour venir en aide aux familles des victimes de la catastrophe ferroviaire de Kakenge. Monseigneur Marcel Madila a lancé ce message ce samedi à l'issue de sa visite aux rescapés de cet incident. Internés pour des soins intensifs au complexe hospitalier de Kananga. Les détails avec André Kambala.
C'est un appel à la solidarité que lance Monseigneur Marcel Madila. Il souhaite que les associations et organismes, tout en s'occupant des rescapés, identifient aussi les familles des victimes et leurs besoins pour des actions similaires. Monseigneur Marcel Madila.
Je lance un message de solidarité. Nous devons compatir, un message de compassion et de solidarité. Nous devons compatir, mais en même temps nous montrer proches de ceux qui sont dans cette épreuve-là. D'abord, il faut les identifier, puis savoir qui est dans le besoin et qui a besoin de quoi, et pouvoir les assister.
L'appel de l'archevêque de Kananga a accompagné l'assistance que l'église catholique a apportée à ses rescapés. Chacun d'entre eux a reçu 12 kilos de farine, plus d'une dizaine de poissons et 5 litres d'huile de palme. Pour l'archevêque Marcel Madila, l'église n'est pas intervenue en retard par rapport à la date de l'accident, car cette aide fait suite à la série d'autres actions déjà posées. Notons que dans la nuit du 1er au 2 août, un train marchandise a connu l'accident près de la rivière Luembe, faisant près d'une centaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Et depuis, quelques-uns d'entre ces blessés ont été acheminés à Kananga pour des soins intensifs par le biais de la MONUC. Kananga, André Kambala, Radio Okapi.